Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h, 18h.
Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews
et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mot.
Je vais trouver ton rushing.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi,
les
citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 7 juin et la musique est très forte le lundi généralement. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, je le disais, bienvenue dans ce Tous au poste du lundi 7 juin. Je suis accompagnée de Tania, notre québécoise favorite sur les ondes de Divergence FM. Bonjour Tania. Et puis voilà, donc nous sommes le lundi 7 juin, au menu du jour, eh bien, on parlera de son, puisque ce sera une interview en première partie de Bertrand Montfort, qui présentera le Centre du son et fera un bilan de la dernière rencontre des acteurs et des domaines du son, et c'est une interview réalisée par Gilles Gouget. En deuxième partie, ce sera Jessica Mendoza, qui est mexicaine et qui sera prochainement animatrice pour nous, pour Divergence, et qui est actuellement animatrice pour une radio universitaire et qui propose un programme pour la saison prochaine. Et elle se présentera elle-même tout à l'heure. Je voulais juste faire un petit hymne à la nature avant d'entamer ce Tous au poste du jour, puisque nous avons des bons plans, mais ils sont maigres car tous les lundis, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous donc, mais la campagne, quand il fait beau et chaud, il n'y a rien de plus délicieux. Des fois que vous trouviez un petit cours d'eau, un lit de rivière, alors le clapotis des gouttes soulage votre sensation de lourdeur estivale. Pas un seul bruit à la ronde, si ce n'est le doux clapotis de l'eau et les oiseaux qui chantonnent. Non, vraiment, l'été, il faudrait stopper toute idée de travail et d'obligation et se plonger directement en pleine nature sauvage, se confronter à soi-même, vivre tout nu et jouir des besoins premiers, manger, dormir, cuisiner, se baigner, se dorer au soleil, faire l'amour des heures durant. C'est un hymne donc à notre nature profonde que je scande aujourd'hui, notre nature sauvage. Et c'est sans transition que nous passons à nos bons plan.
Bravo!
Et on commence ces bons plans avec de l'électro jazz d'ici et d'ailleurs. Les cinq musiciens et le plasticien D-Jazz vous plongent dans une ambiance oscillant entre métal et velours. Ils nous reviennent d'une tournée en Amérique du Sud et se produisent dès ce soir à 21h au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc. Le prix du concert reste non communiqué à ce jour.
Pour une soirée tout en rock japonais, oui, groupe de rock japonais, eh bien vous irez certainement voir Electric Eel Shock. C'est un trio de rock metal qui nous provient du Japon. Ils sont présentement basés à Tokyo. Ils s'arrêtent tout près de chez nous dans le cadre d'une tournée européenne qui les mèneront par la suite en Espagne. Ils ont été influencés par Black Sabbath, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Guns N' Roses. On aura aussi en première partie le groupe Pillander Z. C'est un groupe de manga pop punk. C'est à 20h à la Secret Place au 25 rue Saint-Exupéry à Saint-Jean-de-Védas. L'entrée est de 4 euros.
Et du Japon, nous nous dirigeons vers l'Est, puisque ce seront les Nuits de Zugan, toujours à l'honneur le lundi à 21h30 au bar La Pleine Lune. On y dansera donc pour pas en copec, puisque l'entrée est libre.
Il y aura une rencontre avec la cinéaste Colline Sereau qui présente son film pour un désordre global sur l'écologie. Il y aura une séance de dédicace à 17h à la librairie Soran. La projection du film est à 20h au Diagonale. N'hésitez pas à vous y rendre.
Et comme vous le savez peut-être, le printemps des comédiens a ouvert ses portes le 3 juin. Ce soir, c'est la compagnie de l'Astrolabe sur les planches du Domendo qui nous présente une comédie ballet de Molière, Monsieur de Pourceaugnac. On y verra donc Molière rythmé par les Gumboots africains, un mélange entre tradition et Europe et tradition, n'est-ce pas ? C'est à partir de 21h30 à l'espace Mico Coulier du Domendo. Il vous en coûtera entre 15 et 19 euros si vous êtes jeune et que vous êtes sans emploi, il vous en coûtera 10 euros. Et nous terminons ces maigres bons plans par une conférence sur les crises grecques, une opportunité pour la construction européenne, point d'interrogation, par Guillaume Sarah de Tramezeg, maître de conférence à Sciences Politiques Paris. C'est à partir de 18h30 à la Maison des Relations Internationales sur l'Esplanade, et bien sûr c'est gratuit. Voilà, c'est tout pour les bons plans de ce lundi, qui, comme à chaque fois, Tania, sont assez maigres, hein, n'est-ce pas ? Il faut peut-être aller à la plage, hein, je sais pas, il faut trouver un dérivé.
Probablement, mais suite à ton ode aussi à la nature, ça nous donne le goût de sortir à l'extérieur. Et je voulais juste mentionner, c'est un très bel ode à l'été. Et imagine quand on a 4 ou 5 mois d'hiver avec 500 cm de neige, des températures frôlant les moins 30 degrés.
C'est vrai que
comment
Québec,
on apprécie encore plus le clapoutis d'un ruisseau.
Bon, bah, très bien, Tania, on est parti alors. C'est parti pour la plage, direction le soleil. En attendant, eh bien, on va écouter un petit peu de son, de la nouveauté de la semaine pour nous propulser vers le soleil au zénith.
Et oui, pas mal de soleil dans cette nouveauté de la semaine, puisqu'il s'agit de Jim Murpron Memorial, un groupe français qui plutôt influencé par la musique jamaïcaine roots des années 60-70. Leur nouvel album s'intitule « À la recherche d'un son perdu », c'est peut-être à la campagne qu'il faudra aller le chercher ce son. On écoute tout de suite. If you want it, why I like to sing it, why I like the shoe, I think I like it, yeah, me I like it, give up. And here's one thing, only good one thing you gotta know. When I hear a bell, when I hear the drama, I'm grooving, baby, grooving so. My heart is beating, my body is shaking. I wear a smile there, what else could I do? The troubles are out. And forget words, please forget who else.
Divergence FM, la radio qui donne du sens au son, un leitmotiv, un slogan qui est celui de Divergence depuis belle lurette, depuis bien avant 1998, année de la naissance du Centre du Son. un projet collectif constitué en association en 2005. Et pour en parler avec nous, eh bien, c'est Bertrand Montfort. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes un des animateurs de ce centre du son. Qu'est-ce qui vous a amené à finalement pas travailler sur un projet comme celui-ci, puisque en général, les scientifiques ils finissent par travailler soit sur le terrain, soit dans des labos?
Alors, je dirais les choses ont commencé. Tout d'abord, je veux préciser que je ne suis pas ingénieur du son ni ingénieur acoustique. Ma formation est plutôt du secteur agricole, mais j'ai également une formation scientifique, ce qui m'a permis effectivement d'être rapidement de plein pied avec le Centre du Son. Le Centre du Son, ça vaut peut-être le coup de le préciser, est né en Isère. Et j'ai rencontré donc les fondateurs du Centre du Son à l'occasion d'une manifestation sur l'éco-construction, à laquelle ils participaient justement pour mettre en valeur la thématique sonore, qui, et j'en convenais à l'époque déjà, est un petit peu délaissée dans toutes les réflexions, je dirais, d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture, etc. Mmh.
Est-ce que c'est la civilisation de l'image qui nous vaut cette espèce de d'éloignement, en quelque sorte?
C'est vrai, comme ça, à brûle pour point, on pourrait le penser. Je dirais, je n'ai pas suffisamment creusé la question pour avoir un avis très tranché là-dessus, mais c'est vrai que, je dirais, de manière un petit peu instinctive, je suis assez tenté d'admettre que, effectivement, l'image semble couvrir le son et malheureusement empêcher de lui consacrer toute l'attention qui me semblerait nécessaire.
Puis il y a aussi le fait que les habitudes d'écoute, on sait que les gens, par exemple, sont nombreux à écouter la radio en général. C'est pas une audience qui baisse, l'audience radio, justement parce que on peut travailler en écoutant la radio, enfin en l'entendant, on va dire, et puis de temps en temps on se met à écouter parce qu'il y a un truc qui nous accroche l'oreille, etc. C'est un rapport moins aliénant d'écouter que de regarder, en quelque sorte.
Oui, je le confirme. La radio a probablement moins ce pouvoir hypnotique que peut avoir la télé ou les écrans en général. Moi-même, j'ai toujours travaillé quasiment avec la radio dans les oreilles. Et c'est vrai que... Alors, c'est peut-être aussi une façon de considérer que le son est une valeur minimale par rapport à l'image. Je serais tenté de dire ça autrement. En fait, le son est plutôt une valeur fondamentale à partir de laquelle on peut faire plein d'autres choses.
Alors, le son, c'est aussi tout un tas de métiers, de secteurs d'activité. L'idée derrière le Centre du Son, c'est de faire connaître au plus grand nombre les différents domaines du son, leurs acteurs. Et puis, pour ça, il vous est apparu important de mettre en réseau des ressources, des compétences pour échanger et favoriser les approches transversales en développant des outils au service des différents acteurs du monde sonore. Ceux-là qui travaillent dans les domaines artistiques, scientifiques ou technologiques, chercheurs, décideurs, acteurs ou utilisateurs. Il y a eu justement une rencontre la semaine dernière, c'était le 27 mai, une rencontre qui effectivement a réuni des gens, j'ai envie de dire, d'horizons très divers, et puis quelque part des gens qui, sans cette initiative, avaient assez peu de chance finalement de se croiser.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que...
Même si on y a retrouvé des gens qu'on connaissait.
Alors, effectivement, il y a des gens qui se sont retrouvés là sans l'avoir prévu. Je voudrais remonter un petit peu à cette lecture de la transversalité des domaines du son, qui est d'ailleurs proposée par la Société française d'acoustique comme une bannière fédératrice. Disons que les grands domaines du son concernent aussi bien les sciences de la Terre et de l'atmosphère, puisqu'on utilise par exemple le son pour étudier la physique de l'atmosphère et participer même aux prévisions météo. On s'intéresse bien sûr, à tout ce qui est écoute sous-marine, à la fois pour les utiliser, je dirais, militaire d'identification des fonds marins, mais bien sûr aussi pour se poser la question de l'utilisation des sons par les cétacés, notamment les baleines, les dauphins, ainsi de suite. Donc ça, c'est le domaine sciences de la Terre et de l'atmosphère, mais il y a également dans les sciences de l'ingénieur de très nombreux domaines, d'ailleurs qu'ils concernent. D'une part, l'étude de l'effet du son et la réduction du son en tant que nuisance éventuelle dans, par exemple, l'activité industrielle, mais également l'utilisation du son pour tout un tas d'applications qui vont de la découpe. On peut faire de la découpe avec du son. On peut procéder à tout un tas d'activités, y compris d'ailleurs dans le domaine médical. Et bien sûr, je terminerai par tout ce qui concerne, les sciences humaines et sociales, les loisirs, la musique, mais aussi la parole, les langues. Bref, inutile de détailler tout ça, ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc je reviens effectivement à la rencontre qui a eu lieu le 27 mai à Montpellier. L'idée étant, dans le bassin de Montpellier, c'est-à-dire on ne parle pas à proprement parler d'une région au sens administratif, mais justement de faire comme précédemment à Nantes et comme par la suite dans d'autres lieux en France, eh bien de faire se rencontrer, comme vous l'avez dit, des gens qui ne se rencontreraient pas si on ne leur proposait pas. Ça vient, je dirais, à la fois du cloisonnement entre les différentes disciplines où interviennent ces acteurs des domaines du son, mais également, finalement, de la sectorisation professionnelle et, en fin de compte aussi, de ce qu'on disait finalement pour commencer, c'est que le son est considéré comme un domaine secondaire par rapport à un certain nombre d'autres qui sont finalement responsables de ce cloisonnement.
Alors que le son, ça reste quand même le sens qui fait le plus fonctionner la matière grise quand on s'en sert de ses oreilles.
Alors je ne suis pas neurophysiologiste, j'aurais du mal à l'affirmer de manière péremptoire, mais effectivement, selon ce qu'en disent certains médecins, certains physiologistes, voire dans les neurosciences, le son est la première chose qui rentre. Je dirais, il rentre sans qu'on y prête attention et il précède souvent la vision de quelque chose. On entend et ensuite on voit. Donc effectivement, si on considère cette chronologie-là, par exemple, le son est tout à fait prioritaire sur d'autres sens.
Et puis, quelque chose qui est vraiment dans l'actualité, c'est finalement, que reste-t-il du son aujourd'hui dans les médias, sur les radios notamment, et puis sur Internet, où pour économiser la taille des fichiers, on a développé des algorithmes comme le MP3 ou le Ogvorbis. Pour finalement gagner des octets. Et puis les gens aujourd'hui sont très très habitués à écouter du son qui en fait soit a été compressé à mort, masterisé, etc. Et puis il n'y a plus beaucoup de silence non plus, de dynamique, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas le rapport entre le son le plus faible et le son le plus fort. Maintenant quand on écoute des fois de la musique classique, ça fait, si on connaît bien le disque, ça fait bondir parfois, quoi. Donc c'est vrai que les gens ont peut-être, le marché les a peut-être habitués finalement à être moins exigeants par rapport à ce qui rentre dans leurs oreilles.
Ah oui, c'est tout à fait net. Je dirais qu'on en a eu aussi l'illustration pendant la rencontre des acteurs des domaines du son le 27 mai à Montpellier, avec une entreprise par exemple qui développe la haute fidélité stéréophonique avec du matériel qui effectivement, par rapport au marché des solutions par musique compressée, MP3 et autres, je dirais, paraît exorbitant. Il y a un problème, effectivement, de maintien de la valeur de ces appareils d'enregistrement ou de restitution haute fidélité. On assiste aussi à un clivage entre les tenants de la musique analogique qui conservent précieusement leur 33 tours vinyle. Pourquoi ? Parce que, justement, la numérisation n'est pas venue écraser toute la différenciation, toute la diversité des sons qu'on peut entendre sur un vieux 33 tours. Alors, évidemment, avec les écueils que le numérique tend à corriger, mais tant qu'on n'a pas des débits suffisants sur Internet en particulier, et tant qu'on n'a pas atteint la miniaturisation encore plus importante, eh bien, finalement, on a ce clivage. Et là, on a une vraie problématique, et ça fait partie, d'ailleurs, des thèmes qui ont été retenus dans la synthèse de la rencontre, à savoir que on manque aujourd'hui de normes pour faire cette différenciation entre du son de très haute qualité avec une restitution extrêmement fidèle qui permet du coup de valoriser à la fois les compétences techniques mais également des supports, des contenus musicaux, voire même la parole de haut de gamme, les différencier par rapport à d'autres qui sont finalement le résultat des avancées technologiques, mais j'ai envie de dire pas aussi rapide qu'on pourrait le souhaiter, c'est-à-dire avec un effet d'écrasement, avec de la compression qui écrase finalement pas mal de choses. Donc il y a à la fois un problème de technologie et de reconnaissance de la haute fidélité, mais également un problème d'éducation à la matière sonore avec des utilisateurs, des consommateurs de son qui finalement sont de moins en moins exigeants. Et alors j'irai à ce moment-là dans un autre domaine qui du coup également minimise l'impact que pourrait avoir sur leur audition une écoute sans discernement et surtout une écoute de faible qualité mais de forte intensité. Et donc là, on voit bien de quelle manière les domaines du son, finalement, ont un retentissement, si je peux me permettre le jeu de mots, sur des terrains extrêmement divers et qui méritent absolument qu'on les prenne en considération de manière simultanée, comme se propose de le faire le Centre du Son.
Alors, il y avait des universitaires, il y avait des organisateurs de festivals, des acousticiens, des architectes qui travaillent dans les cabinets d'acoustique, des collègues à nous qu'on connaît bien, comme Kawenga ou Deis, qui sont des espaces dédiés à la culture numérique, des constructeurs donc d'audiophilie, de la lutherie électronique aussi. On avait des gens qui fabriquent des multi-effets pour les guitares, il y avait les gens du master acoustique et environnement sonore de l'université Montpellier 2, et puis il y avait Divergence FM, il y avait l'APIE aussi qui elle est plus dans l'éducation et puis aussi la prévention. Ça, il y avait une bonne vingtaine de personnes qui encore une fois se seraient pas forcément rencontrées alors qu'elles ont des choses à partager. S'il y a qu'à voir en mettant face à face à quelqu'un qui fait de la lutherie électronique et puis ou qui vendent de la sonorisation, et puis en mettant en face un prothésiste d'audioprothèse, forcément ils sont sur la même chaîne, sauf qu'ils sont pas au même bout, et les activités des uns génèrent les activités des autres en quelque sorte.
Oui, alors effectivement c'est assez enthousiasmant de constater à quel point les gens peuvent comme ça de prime abord se tomber dans les bras l'un de l'autre en disant ah tiens tu es là, ça fait longtemps qu'on s'était pas croisé. Et de fait, on a des choses à se dire et à se faire écouter. Mais en même temps, si on creuse un petit peu, et c'est ce que nous avons fait, on s'aperçoit que la définition même du son, du bruit, de l'audition, finalement, subit des petites divergences d'une personne à l'autre, et qu'il y a un besoin absolument crucial de faire se rencontrer ces personnes-là, de discuter ensemble et de finalement gommer ces divergences. Et le terme est approprié ici, de manière à aboutir à des convergences qui seront utiles pour le futur. Pour le futur du son, mais pour le futur aussi des auditeurs et pour le futur de toute personne qui travaille dans les domaines du son.
Et puis il y a la dimension évidemment politique, sociétale, c'est-à-dire les nuisances sonores, comme on les appelle, et la gestion ou la non-gestion finalement de ce facteur sonore par l'institution, la collectivité locale, territoriale ou le ministère.
Alors effectivement, je crois que la dimension, il y a des aspects extrêmement politiques dans les questions du son. On a par exemple entendu le directeur d'Acoustité Lyon qui avait fait le déplacement de Montpellier venir un petit peu à la fois voir ce qui se disait et puis témoigner de son expérience du traitement de la question des nuisances sonores en ville, en milieu urbain. Et de fait, il dit, mais de toute façon, en milieu urbain, il y a une obligation de cartographier les bruits, de faire une cartographie finalement des nuisances sonores sur une agglomération comme celle de Montpellier. Mais en même temps, la réaction qu'on a vue parmi les acousticiens présents, c'est oui, évidemment, il y a cette obligation-là, mais c'est une obligation qui ne comporte finalement que, des points focaux assez réduits, à savoir sur les voies de transport, sur l'autoroute, les couloirs aériens, et puis les voies de chemin de fer. Or, si on regarde un petit peu plus en détail la vie de la cité, comme l'a fait d'ailleurs l'APIE avec un ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle « Écouter la ville », qui est d'ailleurs à disposition sur le site internet de l'APIE, en fait, on ne peut pas, avec une cartographie sonore telle que celle que l'exige la réglementation aujourd'hui, rentrer dans véritablement la dimension mode de vie, culture, juxtaposition entre comportement, mode de vie, et milieu urbain. Et c'est là, en fait, que se situent finalement toutes les problématiques. On l'a bien vu avec les experts présents qui interviennent auprès des tribunaux pour faire des diagnostics sur des problèmes de voisinage, des problèmes de coqs qui chantent, des problèmes de ce qu'on appelle maintenant les nuisances sonores et qui, pendant longtemps, s'est appelé le bruit. Le bruit, aujourd'hui, d'ailleurs, est un terme qui commence à être battu en brèche puisque, la notion de son désagréable est loin d'être objective, c'est même tout à fait l'inverse. Donc voilà, il y a cette dimension politique. C'est d'ailleurs pas un hasard si j'avais invité à cette rencontre eh bien des représentants de l'AFNOR, hein, la déléguée régionale de l'AFNOR, qui m'a mise en relation avec une représentante au niveau national, qui n'était pas présente mais fera partie du réseau, mais également des représentants de la PAV qui sont là pour établir des diagnostics, faire des certifications sur justement les problématiques acoustiques. Alors voilà, donc il est clair que bout à bout, il y a des problématiques qui relèvent du politique, qui relèvent de l'urbain, qui relèvent du mode de vie, je dirais de tout un chacun. Et puis, à côté de ça, il y a des problématiques techniques, il y a des problématiques également sémantiques. Il faut savoir ce que veut dire le bruit, ce que veut dire la nuisance sonore, à partir de quand on va parler de nuisance ou pas. Donc, de fait, tout cela est éminemment politique et nécessite que les collectivités territoriales, que d'ailleurs nous essayons de convier à nos rencontres, eh bien, prennent position ou au moins dans un premier temps s'informent.
Alors le Centre du Son a une vocation à être un réseau, on va dire, de dimension européenne. Hein, ça a été dit au départ. Pour l'instant, son activité, elle est, on va dire, à l'échelle nationale, en quelque sorte.
Alors déjà un petit peu plus que national, parce que en France, nos travaux se font en français. Sur l'internet, ils peuvent être consultés d'un petit peu partout dans le monde. Et j'ai d'ores et déjà des contacts en Belgique, au Canada, en Suisse. Et je dirais, dans l'histoire du Centre du Son, il y a d'ores et déjà un réseau qui est international. Alors, je dirais, la légitimité du Centre du Son à mettre en place un réseau à l'échelle européenne, c'est tout simplement que l'initiative, le Centre du Son, n'a pas son équivalent ailleurs en Europe. Et dans le monde, je dirais, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à 100%. Donc, voilà, en quelque sorte, cette dimension fédératrice du Centre du Son et du réseau qui est en train de se constituer, je dirais, n'a pas son équivalent, et surtout du fait de son humilité. Je veux préciser cette notion-là. Le Centre du Son n'a pas vocation à remplacer qui que ce soit, mais au contraire à apporter le lien nécessaire pour que les différents acteurs des domaines du son puissent communiquer entre eux et aborder de nouvelles problématiques. Mmh. Et donc forcément au-delà de l'échelle française.
Alors, il y a eu pas mal d'actions qui ont été réalisées depuis la création du centre. Des actions, évidemment, donc pour faire se rencontrer les gens, finalement arriver à petit à petit à générer aussi des données qui sont générées par les membres du réseau, ce qui vous permet de faire paraître là depuis mai 2010 une lettre d'expérience qui réunit et qui fait bien voir en quelque sorte la diversité, puisque parmi les participants, je l'ai volontairement pas cité, mais il y avait aussi une société qui s'appelle Happy System et qui est en train qui cherche à développer des ruches intelligentes et qui cherche à savoir où en est l'état de la recherche et l'état de l'art pour bien truffer de micros une ruche et traiter le signal sonore qu'on va enregistrer avec des algorithmes qui vont permettre de savoir combien d'abeilles, quel poids fait la colonie, si elle est en bonne santé ou pas, et même jusqu'à la qualité de l'écosystème autour de la ruche. Donc ça, c'est quand même fou.
Alors, effectivement, avant de revenir sur cet aspect particulier qui me tient particulièrement à cœur en étant agronome et docteur en écologie, je voudrais revenir sur cette notion de les vocations principales, en fait, du Centre du Son. C'est à la fois de réunir des personnes qui appartiennent au domaine du son et qui ne communiquent pas entre elles. Donc, c'est à la fois un moyen de communiquer. Alors, juste une petite rectification. La lettre d'expérience, le numéro 0 a été publié en mars. Oui. Le numéro 1 vient effectivement de sortir et le prochain est prévu pour le mois de juillet. Et cette lettre d'information est accessible en ligne. Par contre, pour pouvoir écrire dans cette lettre d'information comme le fait Jean Borel, créateur, fondateur d'Happy System, eh bien, il faut être membre du réseau et pour ça, ça nécessite un abonnement qui peut être souscrit d'ailleurs en ligne sur lecentredusson.info, sans espace. Donc, je reviens effectivement à cette ouverture qui est recherchée par Happy Systems. Alors, Happy System, déjà, je dirais, les ruchers de grande taille, essaie de proposer, enfin, propose déjà d'ailleurs des ruches intelligentes, comme vous l'avez dit, qui sont truffées d'électronique et qui sont capables de communiquer avec des appareils, je dirais, de relevé d'informations, et donc qui nécessitent, une fois que les capteurs sont en place, eh bien, un certain nombre d'analyses. Et l'idée de Jean Borel, depuis plusieurs mois, même, je dirais, depuis deux ans et demi, c'est d'utiliser l'analyse sonore pour pouvoir effectivement avoir un certain nombre de critères, dont ceux qui concernent la survie des abeilles. Et là, donc, c'est, je dirais, c'est mon cœur de scientifique écologue qui parle, parce qu'effectivement, les abeilles sont véritablement une espèce animale emblématique des questions de biodiversité et de services écosystémiques, à savoir, on n'a pas besoin de demander, on est servi et ça ne coûte rien. Ouais, ça, on n'a pas besoin de sortir d'argent de sa poche, même si, pour ceux qui ont pu voir le documentaire sur le problème des abeilles dans le monde et de la perte énorme d'abeilles en raison de produits chimiques ou de comportements en agriculture, eh bien, aujourd'hui, il y a effectivement de très gros problèmes et les répercussions économiques de la disparition des abeilles pourraient être considérables.
Et puis évidemment le son, surtout sur Divergence, c'est la musique. D'ailleurs les jeunes aujourd'hui se disent tiens, fais écouter ce son, hein, en parlant d'un titre. La musique acousmatique en l'occurrence est pour vous un terrain particulièrement intéressant pour sensibiliser les plus jeunes, puisque c'est une musique effectivement qui parfois peut ressembler à du bruit pour certaines personnes, qui utilise on va dire des sonorités non harmoniques ou des ondes carrées à la place de belles sinusoïdes toutes propres pour faire acte de création musicale. À ce titre-là, en 2009, vous avez réalisé 10 concerts portraits de compositeurs, c'était dans le nord de l'Isère, des actions culturelles autour de cette musique acousmatique au collège pour former aussi les jeunes qui sont, on va dire, les cibles préférées des fabricants de pods, quelle que soit leur marque, qui s'écoutent souvent au casque et souvent trop fort aussi.
Alors, je suis loin d'être un spécialiste de l'acousmatique. J'ai pratiquement découvert ça depuis que je suis dans le centre du son. Je ne connaissais pas ce terme, mais je sais ce qu'on appelle la techno, par exemple. En l'occurrence, ça me ramène à une notion qui est tout à fait essentielle dans le centre du son. Il y a à la fois, je dirais, une évaluation de l'existant et une rupture, en gros, des barrières et des cloisons qui peuvent exister entre les acteurs des domaines du son, une vocation à échanger de l'information et, bien évidemment, à former et à poursuivre les recherches. Alors c'est vrai qu'avec l'exemple d'API Systems, on avait quelque chose de tout à fait concret qui est lié à la production de miel et à la vie des abeilles. Concernant la formation des adolescents, il est tout à fait clair que les collèges et lycées qui sont aujourd'hui en contact avec le centre du son, ils voient véritablement une ouverture tout à fait considérable. C'est-à-dire que, d'une part, on peut effectivement aborder la question des sons sur le terrain de l'acousmatique et donc avec, je dirais, des choses qui leur sont familières et qu'ils apprécient, mais également sous l'angle, je dirais, plus pédagogique et formateur de l'écoute. Et l'écoute, en matière d'éducation, eh bien, c'est un point clé. Donc, donner à écouter des choses qui plaisent a priori aux adolescents, c'est aussi une façon de les amener à écouter différemment ce qu'on peut leur apporter, tout simplement par la voix et sur d'autres terrains. Donc il y a une notion tout à fait forte et présente dans les différents lieux développés par le Centre du Son de cet aspect éducation à l'écoute et à l'utilisation du son dans un but de formation.
http://lecentredusontoutattaché.info, c'est là qu'on peut se renseigner plus avant sur les différentes actions en cours. Une réunion d'ailleurs dans quelques jours dans le 18 dans le Cher. Et puis sur Divergence, on se fera fort de rester au courant et puis de tenir les auditeurs au courant des différentes actions que vous mènerez, dont on espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses et que le réseau grandissent.
Merci bien. N'hésitez pas à prendre directement contact avec moi si vous êtes finalement du bassin régional autour de Montpellier. Bmonfort, Bmonfort, @lecentredusontoutattaché.info.
Bertrand Monfort, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Tous au poste, interview.
Et en deuxième partie de ce Tous au poste, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Jessica Mendoza, qui, je le rappelle, a contribué plus de 10 ans à la radio universitaire de sa ville à San Luis Potosí au Mexique, à travers une émission intitulée Zona Eclectica, une émission qui pourrait d'ailleurs être transposée sur le 93.9 à la rentrée prochaine. Bonjour Jessica.
Oh, bonjour Julia et merci à toi pour l'invitation.
De rien, de rien. Alors, du coup, tu es nouvellement arrivée sur Montpellier.
Oui.
Tu viens de débarquer. Tu m'as dit que tu étais une grande voyageuse, que tu connaissais très bien l'Europe, oui, également le Mexique, que tu sillonnais les routes ardemment et que tu étais à la poursuite de musique. C'est ça qui t'intéresse finalement, de pouvoir eh bien, connaître et débroussailler un petit peu, découvrir la musique de chaque pays et puis la ramener, faire des petites compiles et nous la livrer.
Effectivement, Julia, c'est comme ça. Bon, j'ai beaucoup voyagé pour l'Europe et ça fait 15 ans que j'ai mon programme de radio au Mexique. Et surtout, j'ai ramené beaucoup de musique de tous les pays où j'ai voyagé.
Lesquels, par exemple ?
Par exemple, bon, la République tchèque, Barcelone, Londres, la France, bien sûr, et Italie, Maroc aussi, bon, plusieurs et pays.
Et l'Amérique du Sud aussi ?
L'Amérique du Sud, je ne connais pas. Hein,
partout, ah ouais,
non, je ne connais pas. Que le Mexique. Et bon, Mexique, c'est de l'Amérique du Nord. mais bon, normalement, je cherche beaucoup des musiques différentes pour pouvoir passer dans mon programme de radio au Mexique, surtout.
D'accord. Et donc, tu es également, je le crois bien, psychologue.
Oui, je suis psychologue et aussi j'ai étudié la criminologie aussi dans mon pays. Rien à voir avec la radio et rien à voir non plus avec les choses que je fais dans mon programme de radio au Mexique. Mais je crois que ça aide aussi à connaître aussi bien, pour faire les interviews, à connaître bien les musiciens, mm-hmm, et à connaître aussi la manière de faire la musique, les côtés spirituels, les côtés mental de la musique. Mmh.
Tu me disais que tu avais interviewé Manu Chao
à Lille, oui, mmh, effectivement, ça fait 7 ans à peu près que j'ai fait des interviews à Lille parce que j'ai participé à la radio la qui s'appelle La Voix du Nord et à Lyon aussi quand j'ai vécu à Lyon. Et j'étais dans la radio qui s'appelait Radio Canu.
Mmh, Radio Canu, ouais, qui est, je le rappelle, sur les petites collines de Fourvière. Et donc, qu'est-ce que tu veux proposer alors à Divergence ? Ça sera quoi ? Ça sera de la musique seulement ? Comment ça va se passer, le programme que tu présentes à partir de l'année prochaine ?
Bon, c'est surtout de la musique en espagnol, surtout. Des groupes pas très, 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 très connus ici en Europe, surtout. Et la proposition, c'est de faire les programmes à moitié en espagnol et moitié en français. C'est aussi pour pouvoir donner l'envie à les personnes ici en France de parler des autres langues, parce que c'est vraiment intéressant. Et pour moi, par exemple, c'est une chose qui m'a aidé beaucoup à connaître une autre culture, la française, la culture française.
La musique.
Par exemple, apprendre une autre langue.
Apprendre une autre langue.
Et ça te permet aussi d'avoir les chemins pour pouvoir trouver de la musique dans une autre langue que tu vas comprendre quand tu écoutes une chanson, par exemple. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien faire un programme en espagnol pour pouvoir donner l'envie à quelques personnes, peut-être, à parler une autre langue, à apprendre une autre langue et écouter d'une manière différente la musique.
Je pense que la musique peut être un bon outil pour apprendre une langue, hein,
oui,
pour comprendre,
oui,
parce
oui,
qu'on se laisse vite entraîner.
Oui, c'est vrai.
On va d'ailleurs écouter, en parlant de musique, un petit extrait de La Frontera, je crois que c'est ça, hein, de
oui,
Lassa.
De Lassa.
À qui on rend un petit hommage, allez, encore une fois.
Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que de atrás nessa parede. Arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda, no hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baila. Y a veces nada, a veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo. Es el viento que me manda bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A las orillas de la suerte.
La Frontera de la Sarre, on discutait un peu en off, mais voilà. Et Jessica donc est avec nous, Mendoza, et on parlait de musique et, ouais, et de ton programme que tu allais présenter à la saison prochaine.
Oui.
Et quel style de musique tu as envie de nous proposer?
Bon, c'est un programme qui va être vraiment divers. Et je vais proposer surtout de la musique de jazz en espagnol, et punk, reggae, grind, crust et hip-hop. Musique électronique, la musique électronique, beaucoup de ces styles musicaux, c'est ça.
Musique électronique
en espagnol,
en espagnol.
De l'Amérique latine. Bon, peut-être aussi il aura quelquefois pas en espagnol précisément, mais surtout de l'Amérique latine.
Est-ce que tu as des artistes que tu affectionnes particulièrement, que tu aimes beaucoup et que tu aurais vraiment envie de faire connaître aux auditeurs?
Oui, oui, surtout Lila Downs, qui est un style de musique un peu pareil comme Lhasa. Mm-hmm. Mais bon, c'est une Mexicaine connue ici en Europe.
Lila Downs.
Lila Downs s'appelle. J'aime bien, c'est une chanteuse qui fait beaucoup pour la culture et la tradition du Mexique. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant. Vous verrez. Hein, c'est vraiment intéressant. Et surtout aussi, j'aimerais bien passer des groupes de ma ville qui s'appelle San Luis Potosí. C'est une ville qui est à 4 heures de la capitale. Une ville de 3 millions d'habitants.
Au nord de Mexico.
Au nord de Mexico. Et j'aimerais bien passer des groupes de ma ville. Surtout un groupe de musique de lesquels je suis manager.
Et parce que tu es aussi manager et attaché à la production de certains groupes musicaux.
Oui.
Plusieurs cartes à ton jeu.
Donc, j'aimerais bien passer ça. Et aussi des groupes avec... j'ai aidé beaucoup pour faire les disques. Et des groupes de punk surtout.
Des punks,
comme ils disent en Barcelone. J'aimerais bien passer aussi de la musique comme ça,
ouais,
pas très connue surtout. Et parce que j'ai fait aussi beaucoup de concerts dans ma ville,
mm-hmm,
avec des festivals. Oui, organiser des concerts avec des groupes d'Europe et des États-Unis aussi.
D'accord, ben un vaste programme que tu vas nous proposer bientôt, j'ai l'impression, tout en langue espagnole. Est-ce que tu parleras espagnol la moitié du temps de ton programme, c'est ça là?
Oui. Peut-être je ferai un programme complet en espagnol et un autre programme complet en français, avec mon mauvais français, parce que je ne parle pas très bien le français.
Très compréhensible.
Mais bon, j'espère que toutes les personnes qui vont écouter le programme vont arriver à me comprendre.
Non, mais là, on te comprend très bien, il n'y a pas de souci, Jessica.
Merci.
C'est important pour toi de proposer une émission définition éclectique qui brasse plusieurs styles musicaux.
Oui, 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 c'est ça, tout à fait. Et aussi parler des les traditions du Mexique, les fêtes qu'on fait au Mexique, qui sont des fêtes que vous ne faites pas ici, par exemple la fête de mort.
La fête des morts.
La fête des morts, que vous appelez la Toussaint. Qui on célèbre d'une manière différente. Parce que, par exemple, dans mon programme de radio au Mexique, normalement, s'il y a une fête spéciale, par exemple la fête de mort, on passe de la musique qui parle de la mort,
par exemple. Ouais.
Et s'il y a la fête de l'amour, c'est le 14 février au Mexique, on fait un programme spécial avec la musique qui parle de ça.
D'amour,
si c'est la fête de la femme ou les jours de la femme, les jours des enfants.
Okay.
Parce qu'on on célèbre beaucoup de fêtes au Mexique. Donc j'aimerais bien faire connaître ça aussi.
Et les traditions populaires mexicaines aussi. C'est ça qui t'intéresserait de faire connaître.
Mm-hmm. Mm-hmm, surtout.
Très bien, très bien.
Et de la musique traditionnelle mexicaine, mais mélangée avec des autres styles, comme les jazz, les hip-hop, le rock, l'électro, tout ça.
Super. Eh ben, au plaisir de te voir l'année prochaine, Jessica.
Oui, je suis vraiment contente.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on aurait peut-être oublié de souligner avant de rendre l'antenne?
Non, bon, que j'invite à tout le monde à continuer à écouter Divergence, parce que c'est une radio vraiment intéressante que j'ai écoutée depuis que je suis arrivée. Et c'est pour ça que j'étais intéressée aussi à proposer mon programme et que je vous invite l'année prochaine à écouter Zona Ecléctica. Avec une Mexicaine qui vient avec toute l'envie de pouvoir partager avec vous la musique du Mexique, la musique de l'Amérique latine.
Super, bon, on sera là. Et est-ce que pour l'instant, tu connais un peu les horaires ou c'est pas encore défini ça, j'imagine?
C'est pas encore défini, mais vous verrez dans la page.
Ouais.
Et avant, un mois avant peut-être.
Un mois avant. D'accord.
Les horaires, les jours aussi. Tout ça.
Une nouvelle grille de programme qui sera là vers septembre, je pense. Merci beaucoup à toi, Jessica.
Merci, Julien, et merci à tout le monde qui est là aussi.
Oui, merci à la technique du jour. Et puis, on va refermer, eh bien, je crois, ce Tous au poste. C'était donc ce Tous au poste du lundi 7 juin. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Je remercie également la technique Méa culpa, je ne me rappelle plus du nom de la fabuleuse technicienne qui se retrouve derrière ces planches, mais merci à elle. Amélia, oui, c'est vrai. On oublie toujours un petit peu des fois. Il y a tellement de stagiaires qui ponctuent ces murs divergents. À suivre sur le 93.9, eh bien, c'est avec joie que vous retrouverez la Québécoise d'ici eh bien, quelques minutes. Et ce sera suivi de Alexandre Solutricine, langue d'Opte et Postillon, une petite chronique langue d'Ossienne à 13h20. Et puis vous tomberez dans les bras de l'EPRA, échange et production radiophonique. On y parlera de la prévention de la délinquance aujourd'hui au micro de Vincent Pourageau. Et ce sera sur les coups de 13h30. Je vous souhaite une agréable après-midi sur le 93.9. Profitez du soleil.